7h42 minutes. On est. C'est pas chaud. Pas chaud, gang. Moins 17 degrés présentement. Aïe, 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 aïe. Habillez-vous chaudement. Si vous avez quitté la maison ce matin, on sait que pour plusieurs, c'est peut-être des vacances qui s'étirent. Salutations aux plus jeunes qui sont peut-être à l'écoute en ce moment avec leurs parents qui sont en pédagogique aujourd'hui. Fait que moins 17 en ce moment, moins 10 sera le maximum. Et une belle journée, par contre, très ensoleillée. Là, on va avoir un beau lundi pour commencer la semaine. Demain, ça se réchauffe un petit peu. On est à moins 5 avec une faible neige intermittente.
C'est pas interminable, j'espère.
Non, et tabarouette. Neige interminable et peut-être mercredi, neige intermittente aussi à moins 8. Retour du soleil pour jeudi, vendredi à moins 2 degrés.
Vois-tu en juillet avec encore de la neige qui tombe, pas que ta neige interminable.
T'es beau le tourisme de Noël.
Ouais, là. Ben, bon, on est une cité nordique, mais là.
T'as de l'air d'un genre de film de science-fiction hollywoodien post-apocalyptique ou quelque chose de même où la neige n'arrête plus.
Au moins, t'as dit faible neige interminable. Ouais. Fait que si elle peut rester faible...
Ouais, une belle neige féerique, mais interminable. Ça va être malade. Sur les routes, comment ça se passe?
Ça va bien.
Ouais.
Très bien. C'est un beau matin.
Bon.
Nouvelle, on a appris hier le décès du comédien Julien Poulin à l'âge de 78 ans. La cause du décès survenu samedi à l'hôpital n'a pas été dévoilée pour le moment. Poulin qui a particulièrement été reconnu pour son rôle de Bob Gratton, qu'on reconnaît aussi comme Elvis Gratton. Il a d'ailleurs été très proche du réalisateur Pierre Falardeau, avec qui il a aussi travaillé pour le court-métrage Speak White et le film 15 février 1839. Les réactions qui sont venues vraiment de toutes parts là, dans les heures suivant la nouvelle du décès. Le premier ministre québécois François Legault qui a notamment parlé sur les réseaux sociaux du départ d'un grand acteur québécois saluant sa performance exceptionnelle dans Minuit le soir. Et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annoncera son départ cette semaine selon le Globe and Mail, le média qui rapporte qu'il le fera avant le caucus de son parti prévu mercredi, notamment pour laisser l'impression que la décision vient de lui et n'a pas été forcée. Pendant ce temps-là, le Toronto Star et Radio-Canada rapportaient plus tôt en fin de semaine que l'ex-gouverneur de la Banque du Canada de Mark Carney songeait sérieusement à se présenter pour remplacer Justin Trudeau et Chrystia Freeland ferait des appels aussi de son côté.
Parlons-en justement de cette situation-là avec notre excellente chroniqueuse politique Jacinthe Avarel qui est en studio avec nous. Hey, tu parles d'une belle façon de commencer l'année avec la visite de Jacinthe en studio, puis direct, pow, dindan, on part avec une grosse nouvelle politique fédérale, peut-être... Sûrement le départ de Justin Trudeau, mais tout d'abord, Jacinthe, bonne année, content de te voir.
Bonne année, je suis contente de vous voir aussi. On va avoir une belle année 2025, pleine de rebondissements politiques fédérales, provinciales et municipales aussi.
En tout cas, si c'était à l'image d'un 6 janvier où on apprend dans les dernières heures que, fort probablement, aujourd'hui, ça va être le départ, la démission de Justin Trudeau. Ça part quand même assez fort, ce 2025-là. Est-ce que ça t'a surpris quand cette nouvelle-là a commencé à circuler, là, de la démission imminente de Justin Trudeau?
Bien, on est dans un crescendo hein, depuis le temps des fêtes et même avant, mais c'est un crescendo. Donc, il y a vraiment une accentuation de la pression sur Justin Trudeau pour qu'il quitte. Donc, oui, j'étais surprise quand même parce que je ne m'attendais pas que ça aille aussi loin. Mais c'est le Globe and Mail puis le Toronto Star qui nous confirment qu'il y a des grosses, grosses probabilités, donc avec les sources à l'interne des journalistes, que Justin Trudeau annonce son départ, soit aujourd'hui, soit demain, parce que mercredi, il rencontre son caucus. Est-ce que c'est un départ de son poste de chef du Parti libéral du Canada ou c'est un départ, une démission à titre de premier ministre du Canada? Il y a cette distinction-là qui va être à surveiller.
Parle-nous des différences, vraiment, à peu près. Là.
Bien, parce que s'il quitte seulement le poste de chef du Parti libéral du Canada, il reste premier ministre quand même, en attendant qu'on trouve à l'interne, au sein du Parti libéral, la façon de lui succéder. Donc, est-ce qu'ils vont aller avec une nomination ou ils vont prendre le temps de faire une course à la chefferie? Donc, il y a plusieurs branches d'options encore, là, même en sachant que Justin Trudeau risque de faire une annonce aujourd'hui ou demain. Il y a encore plusieurs branches de décisions qui sont à clarifier. À titre de premier ministre ou à titre de chef du Parti libéral qu'il démissionne? Et par la suite, est-ce que le Parti libéral propose une course à la chefferie pour sa succession ou va tout simplement désigner quelqu'un, comme on l'a vu un peu aux États-Unis avec Kamala Harris qui a été tout simplement désignée puis qui n'a pas eu de course à la succession. Donc, c'est des choses à vraiment surveiller de près.
Est-ce qu'en raison du calendrier serré, parce qu'on reprend en Chambre des communes le 28 janvier, puis là, normalement, motion de censure du Parti conservateur, NPD, bloc appui, paf, le gouvernement tombe. Est-ce qu'en raison de ce calendrier serré-là, tu t'attends à une nomination du côté du PLC?
Bien, normalement, les partis d'opposition, quand ils souhaitent renverser un gouvernement, normalement, il y a une espèce de manière de procéder où on respecte un peu le fait que l'autre, le parti doit se réorganiser.
Okay.
Mais là, ça fait tellement longtemps que ça dure, ce climat dysfonctionnel au fédéral, qu'il y a des bonnes chances que les partis d'opposition votent leur motion de censure, aillent de l'avant, puis disent au Parti libéral du Canada, organisez-vous comme vous voulez, mais on ne vous donnera pas plus de temps pour vous organiser.
Ce qui t'avais juste à t'organiser avant, là, dans le fond, parce que tu sais, depuis pratiquement le début de l'automne, là, qu'on sait que les carottes sont cuites. Là, fait que les libéraux auraient pu, bien, Justin Trudeau aurait dû procéder autrement.
Ouais, donc, ça risque effectivement de provoquer la nomination d'un successeur plutôt qu'une course à la chefferie. En même temps, c'est sur fond, hein, faut se rappeler, on n'est pas isolé, on n'est pas dans une bulle au Canada, et c'est sur fond de nouvelles administrations américaines qui nous menacent de tarifs importants qui vont être drastiques et dramatiques pour notre économie. Alors, ça presse qu'on s'organise et ça aussi, ça va peut-être faire en sorte que le Parti libéral du Canada va dire « Allons-y avec tout de suite une nomination ». On entend que déjà Mark Carney fait ses téléphones pour vérifier ses appuis au sein des caucus du caucus libéral. On a aussi Chrystia Freeland qui fait la même chose.
Mark Carney qui avait refusé l'offre de remplacer Chrystia Freeland avant les fêtes.
Et les deux qui sont vraiment intéressés à succéder à Justin Trudeau. C'est ce qu'on entend là, dans leur mouvement qu'ils font. Tu sais, je parlais du crescendo, mais c'est important de rappeler, là, le caucus de l'Atlantique, le caucus de l'Ontario et le caucus du Québec, donc le caucus, ces trois caucus du Parti libéral du Canada, ont tous finalement arrivé à la conclusion là, dans les dernières semaines qu'ils n'avaient plus confiance à Justin Trudeau. Et ça représente 131 députés sur 153.
Ouch.
Donc, tu sais, on parle souvent les trois caucus, fini, Atlantique, Ontario, Québec, mais c'est important de garder les chiffres en tête. Là, c'est carrément le Parti libéral du Canada au complet qui vraiment ne pousse vraiment à la porte Justin Trudeau.
Quelqu'un qui devient chef du Parti libéral du Canada dans les prochaines semaines, c'est pas un peu un suicide politique dans le contexte actuel où les chances de manger une bonne volée aux prochaines élections sont assez élevées?
Effectivement, c'est un énorme risque politique. En même temps, pour ceux qui voient à plus long terme, ben ça leur permettra de se faire connaître. Parce que, tu sais, si on parle de Mark Carney, par exemple, si c'était lui qui succédait à Justin Trudeau, ça va lui laisser le temps de se faire connaître auprès du grand public parce qu'il n'est pas connu auprès du public. Quelle sorte d'homme il est, on connaît sa carrière un peu. Ceux qui s'intéressent beaucoup à la politique connaissent sa carrière, mais est-ce qu'on connaît l'homme? Est-ce qu'on connaît son tempérament, sa personnalité? Donc, ça va lui permettre de se faire connaître dans un rôle à... Est-ce que c'est l'opposition officielle?
C'est
la
plus
deuxième
facile,
opposition, la troisième opposition? Ouais.
Dans l'opposition officielle, c'est-tu peut-être un rôle plus facile que comme premier ministre pour commencer?
Exactement. C'est un beau rôle pour se faire connaître. Même Chrystia Freeland, on la connaît mieux, mais quand même, on la connaît dans un certain rôle. Donc, dans un rôle à l'opposition, ça sera parfait pour eux de se faire connaître. Donc, quelqu'un qui voit sa carrière à long terme, c'est pas un suicide politique sur le moyen et le long terme.
Dans le fond, t'en manges une bonne. Ouais. Après ça, tu te fais connaître un petit peu plus, puis tu te prépares un plan de match pour les prochaines élections dans 4 ans.
Exactement.
Okay, c'est ça.
Mais la bonne que tu manges à nouveau, elle t'appartient pas à la partie de Justin Trudeau.
C'est ça,
exactement,
l'affaire.
Oui.
C'est vrai, mais c'est ça l'affaire.
C'est ça.
Oui, on est vraiment dans un contexte où c'est lui qui sera blâmé. Et même que le départ de Chrystia Freeland dans ces circonstances-là peut quand même nous laisser douter là, de à quel point elle se distance ou dissocie réellement de l'idéologie du Parti libéral du Canada tel qu'on le connaît actuellement. Il y a aussi beaucoup de relations publiques là-dedans, puis beaucoup de calculs politiques sur le plan de l'image, de dire, bon, mais je me dissocie de Justin Trudeau à peine quelques semaines, quelques jours avant qu'il annonce sa démission. Comme ça, je représente le renouveau au sein du parti, mais quand même une belle recette là, pour toute cuite pour tous ceux qui aiment le prêt-à-penser. Ouais. C'est parfait de dire qu'on incarne le nouveau.
Donc, démission imminente de Justin Trudeau, sa décision, son annonce, on surveille ça très attentivement pendant la journée. Ça va être intéressant de voir la suite des choses pour les libéraux, évidemment, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, on va suivre ça de près. Ça, c'est au fédéral. C'est déjà très, très, très excitant ce début d'année. Côté provincial, qu'est-ce que tu surveilles en ce début d'année?
Au provincial, là, ce qui va être vraiment surveillé, c'est que on est à 2 ans des prochaines élections provinciales. Comment le gouvernement Legault va se comporter dans un contexte très particulier? 2025 est vraiment particulier. On a 2 élections partielles qui se dessinent à l'horizon. On a la course du Parti libéral du Québec qui va mettre en lumière certaines idées fortes, économiques fortes. Donc, la carte que la CAQ avait en 2018 pour se faire élire, qui était l'économie. Mm-hmm. Le Parti libéral du Québec va la jouer, la joue déjà dans sa course au leadership. Nordvolt, qui finalement va mal partout dans le monde, mais qu'on continue de nous dire qu'au Québec, ça va bien aller.
Ça n'a pas de l'air d'aller mal ici.
Le sketch bye-bye était écœurant.
Et dans un contexte où le projet de loi 69, le projet de loi sur l'avenir énergétique du Québec, a été reporté, donc l'étude du projet de loi sur l'avenir énergétique a été reportée dans un contexte, je vous ramène encore à l'élection de Donald Trump et son entrée en fonction là, à la fin du mois de janvier avec sa menace d'imposition des tarifs. Comment le gouvernement Legault, moi, c'est vraiment ça qu'on va surveiller là, puis qu'il faut porter notre attention. Est-ce que ce gouvernement-là va se comporter comme un gouvernement qui est en mode « je gère le Québec » mm-hmm. ou c'est un gouvernement qui se comporte en mode relations publiques, en mode compétition avec les autres partis, finalement en mode préélectoral ou en mode électoral toujours, ou en mode calcul électoral. Il y a une différence entre un gouvernement qui gouverne en gérant le Québec à la hauteur de l'écosystème politique et l'environnement géopolitique mondial, international, et un gouvernement qui gère à la petite semaine, au sondage, à ce qui est populaire. Donc, est-ce que le gouvernement Legault va se relever dans sa hauteur d'être finalement en charge du Québec parce que notre économie va être mise à rude épreuve avec l'imposition des tarifs. L'avenir énergétique, ce sont des gros dossiers. Nordvolt, c'était soi-disant le plus grand projet de l'histoire du Québec, selon François Legault. Alors, tout ça là, fait en sorte qu'on a à surveiller. Est-ce qu'on a un gouvernement qui est en charge, vraiment, ou un gouvernement qui fait la gestion à la petite semaine?
Je vais faire un lien avec la politique municipale parce que la CAQ était très forte dans la région de Québec. On ne le sent plus dans les derniers sondages. Il y aura élection municipale avant élection provinciale. Qu'est-ce qui serait le mieux pour la CAQ? Parce que là, on a tenté de faire croire qu'on était amis avec le tramway, là, Geneviève Guilbeault puis Bruno Marchand. Mais qu'est-ce qui serait mieux? Plus de Bruno Marchand, un Sam Hamad. T'sais, comment faudrait que la carte électorale se dessine à Québec pour que la CAQ puisse se refaire des appuis?
Québec est le mal-aimé, la région de Québec, puis Québec est la mal-aimée du gouvernement provincial depuis plusieurs années et aussi de notre administration municipale là, depuis 3 ans. Bruno Marchand qui s'en va en élection à l'automne cette année, 2025. Donc, on est en année préélectorale au municipal à Québec. Et franchement, je me suis promenée dans le temps des fêtes, là, puis je suis sortie du Québec et je réfléchissais à ça et je me disais, quand on regarde ailleurs dans le monde, là, on a toujours une capitale économique ou une ville métropolitaine économique très forte et une ville secondaire forte. Mm-hmm. La capitale du Québec, la région de la capitale nationale, devrait être notre ville secondaire forte, notre pôle économique, notre deuxième pôle économique. Mais là, la distance, la proportion de notre économie par rapport à l'économie de la grande région de Montréal, elle est énorme, elle est anormale. Si on compare notre ville secondaire, notre région secondaire, qui est aussi notre capitale nationale, là, avec une ville secondaire ailleurs dans le monde, un deuxième pôle économique, notre distance par rapport à Montréal dans notre développement économique, dans le développement de nos sièges sociaux, dans la force de notre économie, cette marche-là, elle est devenue beaucoup trop haute. Alors, la CAQ, Bruno Marchand ou quiconque va aspirer à la vision de gérer la ville de Québec et devenir le maire à l'automne prochain doit vraiment, c'est ça son défi, de démontrer à la région de Québec, j'ai compris qu'on a une grande marche à monter. On est la région où il y a le plus gros, la plus forte croissance démographique. On va atteindre le million d'habitants d'ici 2035, je pense. Et puis, on n'a aucun système économique qui permet de propulser ou de suivre cette croissance démographique-là. Alors, franchement, combien on aura d'opposants à Bruno Marchand? Comment ça va se dessiner, la carte électorale? Trop d'opposition, parfois, peut tuer l'opposition.
En effet.
Pour vaincre Bruno Marchand, ça va prendre une forte opposition qui se distingue sur le plan économique. Plus on a d'opposants, bien, plus on va fracturer le vote et plus on risque de revoir Bruno Marchand à la mairie. Il y en a qui vont être heureux de ça, mais si Bruno Marchand ne prend pas une tendance économique forte, notre situation va juste continuer de s'aggraver et ce décalage par rapport à l'économie de Montréal et même dans l'infrastructure des transports, dans l'infrastructure routière, il manque énormément d'amour ici à Québec, d'investissement. Il faut vraiment qu'on entende ce discours-là à la fois du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, du gouvernement Legault et à la fois de quiconque aspire à la mairie de Québec en 2025.
Pour quelqu'un qui aspire et qui rêve à la mairie de Québec, on le sait à quel point cette carte économique-là est importante. C'est-tu assez, selon toi, Jacinthe-Ève, sexy pour aller chercher les votes de monsieur, madame, tout le monde et de penser peut-être justement remplacer Bruno Marchand ou que Bruno Marchand joue cette carte-là aussi puis être assez sexy pour garder sa place?
Mais moi, je pense que oui. Parce que quand on sort quand on sort de chez... Les gens de Québec sont fiers. Les gens de Québec, quand on leur parle de leur histoire, de leur identité, ils sont fiers. On a une mémoire à Québec et on sait qu'on a déjà eu une bien plus grande place sur l'influence politique au Québec. On a eu une bien plus grande place dans l'économie du Québec et on a perdu notre lustre, mais on n'a pas perdu notre fierté. Alors, si on parle à la fierté des gens de Québec et on fait référence à leur mémoire, à leur histoire, je pense que cette carte-là est assez sexy. Puis quand on sort de Québec et qu'on se promène au Québec, quand on va dans la grande région de Montréal puis qu'on revient ici, c'est pas drôle, là. C'est triste. Là. J'adore Québec, je suis contente. Là. Il y a plein de belles choses qui se font.
C'est ma ville.
Je ne suis pas en train de dénigrer, là, mais comprenez-moi bien. Là. Il y a un décalage incroyable dans la vitalité économique, dans la vitalité des activités qui sont offertes, dans la vitalité de nos commerces aussi. La Grande Allée n'est plus ce qu'elle était. Faut regarder les choses en face.
Saint-Roch se vide.
Saint-Roch se vide. Et finalement, qu'est-ce qui nous distingue de Trois-Rivières ou de Rivière-du-Loup ou d'une des grandes villes du Québec, de Sherbrooke? Qu'est-ce qui nous distingue? On a plus de fonctionnaires. Sur le plan économique, sur le plan des services, sur le plan des infrastructures, qu'est-ce qui nous rend spécial par rapport aux autres grandes villes du Québec? Il faut retrouver notre place comme capitale nationale et moi, je pense que c'est une carte très sexy.
Tu parles justement de, puis on va terminer là-dessus, tu parles de dire on veut retrouver notre fierté. Un de ceux qui faisait en sorte que Québec avait une place prédominante dans la politique, c'était Sam Ahmad, le député de Louis Hébert. Penses-tu qu'il se lance dans la course à la mairie?
Les rumeurs sont fortes, mais moi, je pense que ça urge qu'il sorte. Je comprends pas pourquoi. Ça
pourquoi
urge qu'il
prend
sorte
tant de
parce
temps?
Que. Ça, oui, je comprends pas pourquoi il prend tant de temps. C'est important qu'on mette de l'avant les enjeux dont je parle parfois dans mes chroniques, dont j'essaye de mettre de l'avant, dont on essaye de faire, mettre de l'avant aussi quand on fait de la radio, puis on a une lumière très régionale parce qu'on tient à notre région puis à son rayonnement. Mais en même temps, c'est pas des questions qui se règlent en quelques mois. Il faut vraiment stimuler cette fierté-là chez les Québécois. Puis il faut qu'on entende des voix. Si c'est la voix de sa mamad, bien, il faut qu'on l'entende au plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, il y a beaucoup de choses à éclairer aussi. Et il ne faut pas mettre Bruno Marchand dans une espèce de situation où il y a le monopole du micro pendant encore trop longtemps.
En tout cas, si l'année 2025 est à l'image de la jasette qu'on vient d'avoir sur la scène politique, autant municipale, provinciale que fédérale, ça va brasser puis pas à peu près.
On va avoir du fun à faire de la radio.
On va avoir du fun. Notre excellente chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, un plaisir de t'avoir, tu le sais, dans l'équipe de Rage Against le matin puis de commencer cette autre belle année avec toi, mon ami.
Merci.
Ça continue de brasser énormément dans nos centres de détention ici au Québec. D'autres attaques contre des agents correctionnels pendant le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Est-ce qu'on est rendu trop loin? Est-ce qu'on peut améliorer la situation? On va en parler avec Mathieu Lavoie, qui est président national du syndicat des agents de la paix, oui, en service correctionnel du Québec. Après la pause, restez là. Bridge.